L'Ayurveda Sourire, une émission présentée par Gwenaël Bhatar, praticienne en médecine ayurvédique, herbaliste, auteure et conférencière.
Mes fantastiques pépites, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission L'Ayurveda Sourire. Ce soir, nous allons nous plonger au cœur des résonances sacrées en s'intéressant à un outil de guérison physique et spirituelle universel, un hymne sacré, un instrument de connaissance qui a une puissance qui va bien au-delà du mot, bien au-delà du son. Nous allons parler des mantras. Dans la culture indienne, le son, Shabda, est sacré. Il précède la création de l'univers, puis il lui donne vie avec le mantra Om. Donc les mantras ont un pouvoir vraiment particulier, ce sont des sons divins qui retentissent dans tout le corps et dans tout l'univers, que l'on comprenne ou pas leur sens d'ailleurs. En Ayurveda, on les utilise notamment pour équilibrer le mental et pour se relier à l'âme. Ils sont hautement thérapeutiques et sont une forme de traitement à part entière qui permet d'éveiller le divin en soi. Pour découvrir ce sujet fascinant, j'ai le grand plaisir d'accueillir ce soir une femme dévouée à la spiritualité. Pleine de lumière et de douceur, elle est sanskritiste, enseignante en mantra-thérapie et en méditation. Elle est la biographe du Dalai Lama et l'auteur de nombreux livres. Bonsoir Sophia Strilrever.
Bonsoir Gwenaëlle, merci de m'accueillir.
Merci à
avec
vous d'être
le sourire.
Là. Oui, on essaye. Alors peut-être pour commencer cette émission qui promet d'être riche, est-ce que vous pourriez nous donner votre définition du mantra ? Qu'est-ce qu'un mantra, Sophia ?
Alors mantra, c'est un mot sanskrit qui est composé de deux racines. La première, man, c'est pour manas, l'esprit. La deuxième, tra, c'est protéger, libérer. Alors, de quoi est-ce qu'on protège l'esprit ? On protège l'esprit de la souffrance. Et comment est-ce qu'on protège l'esprit de la souffrance ? C'est en le libérant de l'ignorance. Donc, ça nous donne cette dimension du mantra qui est à la fois une parole de sagesse et qui est aussi une formule de délivrance. Délivrance de la souffrance, c'est la souffrance de la maladie, bien sûr, souffrance du corps, souffrance aussi de l'esprit, souffrance donc émotionnelle ou psychique. Le mantra, en fait, va agir à tous les niveaux de l'être.
Oh, c'est déjà une magnifique définition pour commencer l'émission, très riche, qui parcourt déjà tous les thèmes qu'on va avoir ensemble. C'est super, parce qu'en fait, on dit souvent aussi d'ailleurs que les asanas dans le yoga, c'est une posture du corps, et que les mantras sont une posture de l'esprit.
Oui, ça me parle, et on est limité en fait dans les langues occidentales, parce que pour nous, le corps... C'est le corps physique, quoi. Il y a une identification très forte au corps physique, alors que dans l'Ayurveda, dans le yoga en particulier, on travaille sur plusieurs niveaux, on travaille sur les cinq corps. En fait, ce qu'on ne réalise pas dans notre culture, c'est qu'on a plusieurs corps dans le corps. Et donc les mantras nous donnent un accès privilégié à ces autres dimensions du corps, notamment la dimension du corps de l'énergie. Et on comprend que ça soit thérapeutique parce que c'est extrêmement réducteur de ne voir que la dimension physique du corps et tout ce qui est réducteur est cause aussi de souffrance. Et c'est donc une ignorance terrible. Tandis que si on arrive justement à amener la conscience dans les différents plans du corps... c'est déjà en soi un travail de guérison. Et en plus, avec le mantra qui est une clé énergétique, on peut aussi aligner les différents plans du corps.
Mmh. Oui, c'est un peu comme un fil en fait, conducteur qui, par ses vibrations sacrées, pourrait justement nous relier à tout ce que l'on est, en fait, l'entièreté de qui l'on est.
Oui, c'est un chemin vers la totalité de notre personnalité individuelle, et puis la totalité cosmique de laquelle on n'est pas séparé.
Et alors, qu'est-ce qui vous a amené au mantra, Sophia ?
Alors, c'est une histoire personnelle difficile. Cette année de problèmes de santé qui n'étaient pas identifiés. Donc, une pathologie pour laquelle on n'avait pas de solution. Et, ou alors, les solutions qui existaient étaient tellement invalidantes, en fait, aggravaient encore les symptômes, qu'à un moment, j'ai compris que je devais devenir, en quelque sorte, mon propre médecin. Alors, ça paraît fou, mais c'était la réalité. Je n'avais pas de solution existante dans la médecine allopathique. J'avais essayé aussi d'ailleurs l'acupuncture et d'autres traitements. Donc j'ai ressenti en moi une grande énergie de protection et qui me disait de toute façon tu rencontreras un jour un médecin qui te donnera la clé de ta guérison. Et en attendant, donc j'ai fait confiance à ce médecin intérieur. Je suis arrivée à supporter des symptômes invalidants. Et donc, ça a duré 7 ans, c'est long, de 1998 à 2005. Et il se trouve qu'au printemps 2005, j'avais vu dans une revue une annonce pour un yogi qui était aussi médecin tibétain, et qui donnait un séminaire justement de mantras. Et ce yogi travaille aussi, puisqu'il est médecin, et en fait c'est un spécialiste mondial des thérapies traditionnelles tibétaines, le docteur Nida Chenaktsang. Il pratiquait aussi une forme de mantra, une forme de massage, un massage qui travaille sur les plans subtils. Et j'avais compris que mon problème, il était à un niveau énergétique, à un niveau subtil. C'est pour ça d'ailleurs que la médecine traditionnelle ne pouvait pas m'aider parce qu'elle travaille sur le plan uniquement physique. Donc moi, je savais que j'avais besoin d'autre chose. Et j'ai fait confiance à ma voix intérieure, mon intuition qui me disait d'aller le voir. Mais j'ai cru que j'allais lui demander un massage. J'avais d'ailleurs pris rendez-vous pour un massage. Et puis le massage, et c'était fini, j'aurais été guérie. Alors, j'y suis allée avec cet esprit-là. Donc je me suis inscrite à ce séminaire de mantra. Et quand je l'ai vu, il m'a examiné, il m'a ausculté, donc dans la tradition de la médecine tibétaine, comme dans l'Ayurveda, on prend les poux. Donc il a pris les différents poux et à la fin il m'a dit non, le massage ça n'aidera pas, ça risque au contraire même d'aggraver. Mais je pense que les mantras pourraient aider beaucoup. Et il m'a prescrit un mantra. Alors j'étais déçue parce que je m'étais fait des idées et que ça ne se passait pas comme j'avais imaginé. Et puis en même temps, je sentais beaucoup de bienveillance. Je sentais quelque chose de tellement profond et authentique qui émanait de ce médecin, que j'ai eu envie de continuer. Et puis de toute façon, je suivais ce séminaire de mantra-thérapie. Et là, je découvrais aussi ce que je ne connaissais pas, c'est-à-dire des mantras de soins qui sont différents d'autres mantras, parce que ce sont des mantras spécifiques, adaptés à des pathologies spécifiques aussi. Et voilà, donc comment j'ai découvert les mantras de soins. Et à la suite de ça, j'ai suivi ces instructions. Donc, me soigner avec la récitation d'un mantra particulier. Je devais le réciter en période de nouvelle lune, dans le noir complet, et puis il y avait un protocole à suivre. Voilà ce que j'ai fait. Et j'ai pas compris tout de suite que j'étais guérie, parce que j'avais des périodes de rémission pendant lesquelles les symptômes ne se manifestaient pas. Donc, je voyais bien que ça revenait pas. Mais au bout de quelques mois, ça revenait toujours pas. Je l'ai revu, je lui ai dit où j'en étais, et il m'a dit, bon, maintenant les symptômes, il faut pas les appeler, maintenant c'est terminé. Et je me suis rendu compte que j'avais besoin aussi de libérer en moi la peur que ça revienne, que ça recommence. Et à partir de ce moment-là, effectivement, j'ai coupé avec ça. Et puis je pense que ça prend toujours du temps. On a des mémoires. Hein, et que 7 ans, c'est quand même toute une période. À partir du moment où j'ai réussi à couper avec ces mémoires, à libérer aussi toute la souffrance que ça avait déposée en moi, effectivement, je me suis rendu compte que je pouvais dire que j'étais guérie. Et ça avait été tellement fort, la transmission aussi que j'avais reçue de ce médecin, que j'avais envie de continuer forcément. Et donc, je me suis formée avec lui et il m'a donné l'autorisation, moi aussi, de transmettre des mantras de soins. Et des mantras de guérison aussi. Et c'est ce que je fais régulièrement dans des séminaires et des retraites de mantra-thérapie.
Waouh ! C'est une magnifique histoire. J'aurais jamais imaginé tout ça. C'est vrai qu'en fait, pour arriver à des mantras de soins, de guérison, c'est logique qu'il y ait quand même une démarche personnelle, qu'il y ait vraiment un appel intérieur. Là, l'avoir vécu, c'est quelque chose de très fort, qui permet en fait de vraiment pouvoir accompagner au mieux les personnes, puisque vous comprenez aussi la douleur qu'il peut y avoir derrière, et aussi peut-être ces doutes et ces réticences qu'il y a au départ, en se disant « non mais c'est un mantra, c'est pas ça qui va m'aider, à me libérer de toutes mes douleurs », et puis avoir aussi peut-être cette phase encore de doute qui persiste quand on pratique et on sent que ça va mieux, mais il y a quand même encore des choses qui restent, parce que finalement on peut imaginer aussi que résiduellement, dans les mémoires cellulaires, il y a aussi quelque chose, hein, c'est ce que vous disiez. Il peut y avoir quelque chose, des troubles auxquels on peut même être attaché, en fait, hein, puisqu'ils ont, ils ont un intérêt dans notre histoire, dans notre évolution. C'est certain. Et j'imagine que la mantra-thérapie, c'est quand même quelque chose qui se pratique sur le long terme, ou est-ce que ça peut être très rapide? Ça dépend des pathologies et des gens, j'imagine aussi.
Alors, on va imaginer qu'effectivement, pour que ça ait un impact, il faut le répéter beaucoup, que ça doit durer longtemps. Dans mon cas, ça s'est pas passé comme ça. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que chez les personnes pour qui le mantra est adapté, on va dire que s'il y a une conscience de l'énergie, ça aide beaucoup. Si on a déjà travaillé, moi j'avais fait de la méditation aussi. Donc, si on a déjà travaillé, exploré justement ces niveaux subtils du corps, fait du yoga par exemple ou d'autres pratiques de l'intériorité, ça va être plus simple. Mais j'ai remarqué aussi vraiment des personnes qui n'avaient pas du tout aucune formation, par exemple à la méditation. Et chez qui ça a été, il y a eu un effet lorsqu'on est prêt, parce que il se peut qu'on a aussi des mémoires, bien sûr. Donc même sans le savoir, on peut avoir pratiqué ça dans d'autres vies, arriver là, et puis que tout d'un coup, ça paraît miraculeux, mais bon, il y a forcément une histoire personnelle derrière, même si on la connaît pas. Elle peut se réveiller à cette occasion. On peut faire aussi des retours, des régressions dans le passé. Et puis je me rappelle une jeune fille que sa mère m'avait envoyée parce qu'elle avait une chimiothérapie suite à un cancer du sein. Et donc, elle était complètement paniquée, ce qui est bien compréhensible. Et la première chose qu'elle m'a dit, alors, moi, je ne suis pas bouddhiste, j'ai pas l'intention de le devenir. J'ai beaucoup, beaucoup hésité avant de venir vous voir, mais j'ai aucune solution et je veux essayer. Je lui ai dit, et je dis tout le temps d'ailleurs quand je commence mes formations, c'est que, on n'a pas besoin d'être bouddhiste pour réciter des mantras, parce que on travaille au niveau de l'énergie, et une énergie c'est très différent de la croyance. Les croyances, ce sont des constructions mentales, ce sont des ou intellectuelles, mais le mantra, parfois, la plupart du temps, on ne traduit pas le mantra et il n'a pas un sens particulier. Donc, ce sont des sons mantriques qui entrent en résonance avec notre corps énergétique. Et alors, encore une fois, ça n'a rien à voir avec la croyance. Et moi, j'ai même renversé ça. Je pense que le mantra pour quelqu'un, par exemple, qui va être bouddhiste, il va éveiller des représentations, voire des visualisations de type bouddhiste. Et pour quelqu'un qui va être chrétien, il va au contraire se traduire dans des visions, dans quelque chose qui culturellement se rapproche du christianisme. Et ça aussi, je l'ai constaté. Donc voilà, j'ai une approche qui est extrêmement ouverte, et en tout cas qui n'est pas du tout axée sur la religion. Qui est spirituel, ça dépend ce qu'on met sous spiritualité. Encore une fois, c'est pas la croyance. Si c'est la spiritualité et la vie de l'esprit, dans la mesure où l'esprit, c'est aussi une énergie, la conscience, c'est une énergie. Donc, on peut dire que c'est spirituel. Mais c'est principalement énergétique. Et de toute façon, ça travaille au niveau du corps énergétique.
Et alors, mais justement, là, ça montre bien, en fait, à quel point le mantra est universel. Et est-ce que, justement, le fait de ne pas bien prononcer un mantra, parce que, enfin, on utilise souvent le sanskrit, par exemple, en Ayurveda, c'est le cas en tout cas, si on ne prononce pas bien, est-ce que ça a vraiment une importance? Puisque, en réalité, c'est peut-être juste l'intention qu'on met dedans. Puisque, même si on ne comprend pas le sens, en fait, c'est pas si grave.
Bon, rien n'est grave, ça dépend de ce qu'on recherche. C'est vrai que l'intention, c'est déterminant, mais c'est pas tout non plus. Les mantras, vous avez raison, ils sont en sanskrit, mais il y a aussi des mantras dans l'ère tibétaine qui viennent de la région du mont Kailash et qui n'étaient pas en sanskrit à l'origine, qui remontent même à une langue qui est perdue aujourd'hui. Dans cette tradition, on dit d'ailleurs que les mantras, mais c'est pareil dans les Védas, que les mantras ont été transmis par des êtres de lumière qui étaient donc des êtres d'énergie précisément, et qui se sont manifestés dans cette région du mont Kailash, qui se soignaient avec de l'énergie, et qui ont transmis cette tradition au peuple originel qui était là avant même la civilisation tibétaine. Et qui sont d'ailleurs ceux qu'on appelle les Bunpo. Et Bunpo, c'est un mot qui veut dire celui qui récite. Et qui récite quoi? Qui récite des mantras. Et donc, ils les ont transmis. Ensuite, il y a eu ces lignées de prêtres Bunpo qui ont transmis ces connaissances à des yogis, et ensuite qu'ils ont passé au Tibet. Et après, il y a eu des fusions, évidemment, avec la culture indienne à partir du 8e siècle. La première grande conférence internationale de médecine, elle a eu lieu à Lhasa, la capitale du Tibet, au 8e siècle. Il y avait donc des médecins tibétains, avec la tradition spécifiquement tibétaine, des médecins ayurvédiques, des médecins chinois, il y avait même des médecins perses, et il y avait un grec qui était là. Enfin, c'était en fait tout le long de la route de la soie qu'on échangeait les pratiques médicales. Et du coup, il y a donc ces mantras bien sûr en sanskrit, mais aussi donc ces mantras vraiment originaires du Tibet. Et il se trouve que la tradition des mantras de soins, elle a intégré des apports sanskrit, mais elle a une origine qui est spécifiquement himalayenne, et on va dire elle est restée dans les lignées de transmission tibétaines. Elle n'est pas forcément passée en Inde, où il y a également des mantras spécifiques en Ayurveda qu'on ne trouve pas dans la tradition tibétaine. Alors après la prononciation, il se trouve que le sanskrit c'est une langue qui a voyagé. D'ailleurs déjà même en Inde, il y avait des prononciations très différentes. C'était une ère qui était très riche sur le plan linguistique. Et ça, bien sûr, ça s'est appauvri, mais il y avait une multiplicité de langues. Donc il y avait cette langue qui était le sanskrit, Devanagari, c'est la langue des dieux, c'est la langue sacrée. Et puis, il y avait après la façon de prononcer qui changeait beaucoup en Inde même. Et alors, quand c'est passé au Tibet, ça a été encore très fortement changé, prononcé autrement. Le sanskrit a voyagé également en Asie du Sud-Est, parti au Cambodge, au Vietnam, au Japon. Donc, des fois, on a des mots sanskrits qui sont devenus complètement exotiques dans toutes ces langues. Alors, il y a ceux qui disent, oui, en effet, la prononciation sanscrite, c'est important de s'y tenir, de ne pas dévier par rapport au sanskrit, dans la mesure où on veut avoir une résonance, qui serait une résonance originelle. Et en plus, il faut savoir que le sanskrit, dans l'écriture Devanagari, qui veut dire littéralement l'écriture des dieux, c'est une langue où la forme des lettres reproduit des intersections et des croisements de canaux du corps subtil.
Et en effet, ils sont, enfin, le sanskrit, toutes les lettres en fait de l'alphabet sont reliées à des chakras ou des nadis, donc des centres d'énergie, des roues d'énergie dans le corps.
Et voilà, des personnes qui ont développé donc une conscience très très subtile sont même capables de voir ces lettres dans le corps. Donc de ce point de vue-là, idéalement, on fera résonner le mantra avec la lettre. Et d'ailleurs, il y a une des pratiques en mantra thérapie où on écrit donc avec de l'encre comestible sur du papier qu'on peut manger. On écrit le mantra et on mange littéralement le mantra parce que c'est une façon d'assimiler, encore une fois dans le réseau subtil, la forme de la forme, c'est aussi une énergie. Mmh. Et on va visualiser des lettres, et ces lettres, on va les placer sur certains points du corps, et ça aussi, c'est thérapeutique. Donc il y a cet ensemble de potentialités, en fait, et puis après, ben ça va dépendre de chacun. Moi, j'aime bien rester dans la prononciation indienne, même si, alors, pratiquant avec des Tibétains, évidemment, ça bouge. On dit aussi que c'est important de réciter les mantras tels qu'on les a reçus dans une lignée de transmission. Et que même si le détenteur de cette lignée vous l'a transmis d'une façon qui ne correspond pas à l'original en langue sanskrite, ça va quand même être efficace. Parce que c'est dans la lignée. Donc voilà, il y a. Après, c'est. Je pense qu'il ne faut pas être rigide avec ça, avec rien d'ailleurs, hein, autant
Exactement.
Possible. Sentir comment ça résonne avec nous. Et puis des fois, même sans s'en rendre compte, on va changer un peu la prononciation. Et ce n'est pas forcément mauvais, au contraire. C'est peut-être parce que le corps a besoin de l'entendre comme ça.
Exactement. Oui, enfin, moi, j'ai tendance en fait à justement tranquilliser les personnes qui viennent en consultation, qui me posent des questions sur les mantras, parce que, en effet, le sanskrit, bon, c'est extrêmement important, en tout cas en Ayurveda, et c'est vrai que les lettres en fait sanskrites, comme on l'a dit, c'est relié vraiment à des cadeaux d'énergie. C'est les différents bijas aussi peuvent être connectés à différents organes du corps. Donc évidemment, on pense tout de suite à ça, aux déesses, enfin à plein de choses. Il y a toute une dimension tellement sacrée, tellement divine qu'il y a autour de ça qu'on peut pas toucher, palper comme ça, qu'on veut faire au mieux. Mais en réalité, je crois que pour moi, en tout cas, il y a toujours le pouvoir de l'intention en premier, ce qu'on a envie en fait d'améliorer en soi, comment on arrive à se relier déjà à son énergie, comment on arrive à la faire vibrer, quelles sont les résonances qui nous parlent. Et si jamais c'est pas en sanskrit, ben c'est pas grave. Je pense qu'on peut aussi en fait se réciter des mantras improvisés, en tout cas ou créés dans la langue qui est juste pour soi, en fait.
Ça, c'est difficile de. Enfin, je trouve que c'est bien, en tout cas, d'avoir cette ouverture-là et de ne rien figer et de laisser émerger ce qui est juste en fonction des personnes, en fonction aussi des pathologies, bien sûr.
Oui, parce qu'en fait, on est là vraiment pour rétablir l'intelligence, les capacités de réharmonisation des cellules. Donc après, je pense que voilà, il y a beaucoup en fait l'intention qu'on a. Et justement, est-ce qu'il y a une différence entre un mantra qui est prononcé et un mantra qui est récité intérieurement pour vous? Parce qu'on dit souvent en fait que le mantra qui est prononcé ou chanté, c'est un impact direct sur le corps subtil, alors que celui qui est récité intérieurement, ça purifie même jusqu'au corps causal en fait, et ça touche même au subconscient. Qu'est-ce que vous en pensez?
C'est difficile de commencer par un mantra récité en silence. C'est pas mal de se former, de découvrir un mantra, de le sentir résonner de manière sonore. Et après, il va se passer ce phénomène, c'est-à-dire que on se rend compte que la récitation, elle se fait toute seule. C'est presque une récitation spontanée. Et donc, il y a comme un son interne du mantra qui se met en place, qui est en dehors même de la volonté. Mais quand on se réveille, par exemple, c'est la première chose qu'on entend. On va se réveiller avec le mantra. Et, Et donc ça, c'est un bon signe. C'est en fait le signe qu'on a vraiment complètement intégré l'énergie du mantra avec sa propre énergie. Et c'est sûr que c'est un approfondissement d'avoir une récitation silencieuse.
Et comment on fait pour savoir quel mantra nous convient ? Du coup, on prend rendez-vous avec vous pour avoir un mantra de guérison ou... Comment on peut faire ?
Alors, oui, il existe. Moi, je transmets 70 mantras de soins qui correspondent à pas mal de pathologies. Des mantras généralistes, des mantras de guérison, ça fait à peu près une centaine de mantras. Bien sûr que la première indication, ça va être la pathologie. Ce que on recherche, quel est l'effet qu'on recherche à travers ce mantra. Si le mantra convient, on va très vite le sentir. Ça, j'ai vu tellement d'expériences sur moi et sur d'autres que ça me paraît évident. Et donc la personne va sentir que ça lui fait du bien. C'est pas forcément le mantra qui va comme ça. C'est pas miraculeux non plus. Ça ne va pas donner automatiquement la guérison. Y a de même que l'allopathie ne convient pas à tous les problèmes de santé, de même les mantras ne conviennent pas non plus à tous les problèmes de santé. C'est pareil pour toutes les thérapies. Et ça va dépendre donc du type de pathologie. Il y a plusieurs pathologies qu'on distingue, comme en Ayurveda, en médecine tibétaine aussi, en fonction aussi du profil de la personne, de sa personnalité. Ça fait beaucoup d'éléments à prendre en considération. Ça n'enlève rien au pouvoir des mantras, mais encore une fois, c'est pas forcément indiqué. Mais indépendamment donc de l'efficacité thérapeutique en termes de solution d'un problème de santé, le mantra va toujours apporter un apaisement, permettre de prendre beaucoup de recul par rapport à la maladie, et ça c'est vraiment important. De plus être dans cette identification avec la douleur, avec la souffrance, avec la maladie, et d'entrer dans des espaces en soi que des gens qui n'ont jamais médité ne connaissent pas et qui vont énormément les aider dans leur protocole de soins.
Voilà. Oui, parce qu'on peut aussi pratiquer des mantras si on n'a pas de pathologie.
Bien sûr, parce que dans ces médecines-là, on dit toujours que la prévention est essentielle. Mmh. Et même si on n'a pas une pathologie physique, qui n'a pas un problème émotionnel, psychique, ou qu'on a besoin avec lequel on fait des réconciliations avec soi-même, avec l'entourage, ça joue à tous ces niveaux-là.
Mmh, pour conserver l'harmonie personnelle.
Oui, bien sûr, parce que la vie n'arrête pas de nous pousser dans des choses difficiles, et donc pour retrouver sa joie, déjà, c'est sa joie de vivre. Et puis après, la guérison, elle vient ou elle ne vient pas, mais il y a une forme de guérison. On rencontre des gens qui sont malades, enfin qui sont même dans la phase terminale, et ce qui est incroyable, c'est bien des fois, je les ai sentis guéris intérieurement. Et même si, pour des raisons, enfin après on l'explique comme on veut, la guérison physique n'était pas donnée à ces personnes-là, il y avait quand même un magnifique processus de guérison intérieure.
Mmh. Justement, enfin quand on pense à ça, est-ce que on pourrait vraiment dire en fait que les mantras c'est une voie vers la spiritualité, vers quelque chose de plus grand que soi? Vous parliez d'un espace à l'intérieur auquel on arrive à se reconnecter justement grâce à toutes ces vibrations, à tous ces sons sacrés récités ou pas par les mantras.
Oui, ça me paraît essentiel. Si les mantras peuvent permettre ça, c'est quelque chose qui change la vie de la personne, qui change la vie dans cette vie. Et si on pense qu'il y a d'autres vies après, c'est aussi quelque chose qui va permettre d'aborder justement la fin de vie, d'aborder tous les grands moments critiques de l'existence avec une conscience beaucoup plus éveillée. C'est un éveil, le mantra. Et c'est un éveil à l'amour aussi, parce que le mantra, c'est pas juste des mots qu'on récite les uns derrière les autres. C'est aussi justement entrer dans cette conscience de l'unité avec soi-même, avec les autres, avec la totalité. Et donc de passer dans cette vision vraiment sacrée, spirituelle.
Il faut vraiment le vivre hein, pour le croire.
Ah, c'est de l'expérience pure.
Vous me disiez justement d'ailleurs que c'est la première médecine du monde, les mantras.
Oui, les mantras, c'est la première médecine de l'humanité. On trouve ça dans le Charakasamhita, un grand texte de l'Ayurveda. Ouais. Et l'origine des mantras, enfin je pourrais vous en parler, mais je crois qu'on n'a pas le temps. Mais je dirais juste que l'origine des mantras, elle se perd dans la nuit des temps. Mais je l'ai dit, je pense tout à l'heure, je parlais de ces êtres d'énergie qui sont venus sur Terre avant même que la race humaine se soit répandue sur Terre, en tout cas en Asie. Et il y avait déjà cette lumière des mantras.
Et quel est votre mantra préféré, Sophia? Vous en avez un?
Oui, mon mantra préféré, c'est le mantra de Tara. C'est le féminin sacré, c'est tout ce qui relie à cet état maternel de la conscience, à cette forme d'amour. Tara, c'est la mère. Elle a plusieurs aspects. Elle peut être de couleur verte, elle est associée à l'énergie de l'action, elle est de couleur blanche. Et là, elle est associée à l'amour maternel qui chérit tous les êtres comme ses enfants. Et aussi à la guérison.
C'est marrant parce que tout à l'heure, quand je suis arrivée pour enregistrer cette émission et que j'ai vu Sophia, je l'ai vue porter du blanc. Elle était rayonnante dans toute une lumière blanche. Et là, en fait, on est entouré de vert avec tout le logo de Radio Médecine Douce. C'est complètement en accord.
Eh bien, écoutez, oui, j'aime bien la porter du blanc aussi. Et c'est vrai que... C'est dans l'énergie de Tara et que le vert est aussi la couleur de Tara.
Bon, en tout cas, si on souhaite approfondir le sujet des mantras, Sophia, vous proposez des formations et la prochaine aura lieu mi-mars.
Oui, le week-end du 14-15 mars.
Vous organisez aussi des formations avec ce fameux docteur tibétain.
Et oui, docteur Nida, il revient en France, il vient deux fois par an au Jardin de la Paix, là où on a toutes ces formations. Et il sera là du 4 au 11 avril. Et je crois que en plus, il va donner des enseignements à la fois donc l'Hatha Yoga, qu'on appelle aussi le Dzogchen en tibétain, et qui est le yoga de reconnexion avec la nature profonde de l'esprit. Et puis on aura aussi 5 jours de diète tibétaine, donc c'est un jeûne partiel et où on récite des mantras, on fait également des visualisations et on se nourrit de prana, en fait d'énergie, voilà.
Qu'après on pourra rediriger grâce aux mantras dans nos cellules.
Écoutez, oui, et puis dans le monde aussi qui en a tellement besoin.
C'est sûr. Et vous êtes également en train d'écrire un livre. Il y a un livre à venir.
Oui, c'est un livre en effet de méditation, méditation au cœur du monde, parce que je trouve qu'en 2020, on ne peut pas se mettre dans une bulle et se faire du bien en méditant, même si on se fait du bien, mais ce n'est pas ça l'intention première. Je pense que c'est beaucoup, ce qui se passe est beaucoup trop grave. Et ma conviction, c'est qu'en se soignant, en se guérissant soi-même, on peut aussi guérir la terre, guérir le monde. Et que ça, c'est ça la pratique spirituelle.
Ça commence par soi.
Ça commence par soi et ça ne s'arrête pas à soi, ça va plus loin que soi.
Sans aucun doute. Un petit mot de la fin pour nos auditeurs?
Alors, ben écoutez, puisque c'est des mantras, j'ai envie de leur dire en chantant un mantra.
Avec grand plaisir.
Le mantra de Tara, par exemple.
Ah ben alors là, ils seront ravis, moi aussi d'ailleurs.
Tara Blanche, donc... Om Tare, Tu Tare, Tu Re, Ma Ma Yush Punyam, Jnanam Pushtim, Kuru Yeswaha.
Magnifique. Merci beaucoup, Sophia, pour ce bel échange.
Merci Gwenaëlle de m'avoir invitée dans le sourire de l'Ayurveda.
En tout cas, mes pépites, vous retrouverez toutes les infos sur Sophia dans la description de l'émission. Et puis, pour continuer le voyage au cœur de l'Ayurveda, vous pouvez bien sûr découvrir mon livre, L'Ayurveda sourire quand la joie du cœur et la santé du corps, aux éditions Marie-Claire, et suivre toute l'actualité de l'Ayurveda sourire sur les réseaux sociaux via Mihira Ayurveda, M-I-H-I-R-A Ayurveda. Encore un énorme merci Sophia.
Merci Gunaëlle, merci à tous.
Et merci beaucoup mes pépites pour votre attention. D'ici notre prochain rendez-vous, je vous envoie une myriade de sourires et surtout, souvenez-vous, que la joie du cœur et la santé du corps. À bientôt.
L'Ayurveda Sourire, une émission présentée par Gwenaëlle Bhattar, praticienne en médecine ayurvédique, herbaliste, auteure et conférencière.